Sens de la peine.
Et voilà, donc du coup, pour cette émission du mois de novembre, on avait envie de passer, de revenir sur l'histoire du CAP, qui est le comité Action Prisonnier. C'était à la fois un mouvement et un journal. C'était dans les années 72 à peu près à 82. Et ce mouvement et ce journal, il a posé un certain nombre de questions sur la prison à partir du point de vue des prisonniers. C'était donc une organisation autonome qui était soutenue par des gens à l'extérieur et qui pensait que les mieux placés pour parler et pour analyser ce qui se passait à l'intérieur, ce sont les prisonniers. Et l'idée, c'était donc de faire sortir cette parole-là. Et si à l'émission d'Histoire qui ne fait pas d'Histoire, on a eu envie de parler de ce mouvement et de ce journal, c'est parce que on est en 2021 et il y a 40 ans exactement, la peine de mort a été abolie en France. Et du point de vue des vainqueurs, l'abolition de la peine de mort dans l'histoire, ça s'inscrit un peu comme une grande date, un peu une grande date humaniste qu'il faudrait célébrer. Par contre, si on regarde sous un autre angle, si on regarde du point de vue des prisonniers, on se rend compte que la réalité, elle est tout autre. Et qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de prisonniers qui répètent que la prison tue, à petits coups ou d'un coup, que la peine de mort n'a jamais été abolie, que c'est la guillotine qui a été supprimée. Et il y a beaucoup de ces témoignages qui sortent vers l'extérieur grâce à un journal qui s'appelle L'Envolée. Ce journal-là, il existe depuis 2001. Et donc, ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'il relaie les paroles des prisons pour les faire entendre dehors. Ah oui, j'ai oublié de dire que quand même, L'Envolée, à la base, c'était aussi une émission de radio, une émission de radio hebdomadaire. Qui a été lancée par d'anciens prisonniers et par leurs proches qui passaient sur Fréquence Paris Pluriel à Paris. Et en 2000, donc cette année-là, pour la 40e année de l'abolition de la peine de mort, il y a le numéro 52 du journal qui est interdit et il y a une plainte pour diffamation parce que, en fait, il y a un article, enfin, il y a plusieurs témoignages. De ce journal qui raconte des violences que des surveillants ont eues sur des prisonniers et qui ont entraîné la mort d'un prisonnier. Et du coup voilà un peu pour un peu contrecarrer l'hypocrisie de la peine de mort, de l'abolition de la peine de mort, ils ont sorti un bouquin qui s'appelle « La peine de mort n'a jamais été abolie », dit et écrit de prison choisi par L'Envolée. Depuis 1981, des prisonniers et des prisonnières troublent la fête. Voilà, ça a été édité par les éditions du Bout de la Ville. Et je vais juste vous lire un extrait, notamment un extrait de l'appel des prisonniers de la centrale d'Arles qui avait été écrit donc en octobre 2001, donc cette fois à l'occasion des 20 ans de l'abolition de la peine de mort. Troubler la fête. Nous, prisonniers qui vivons dans le ventre de la bête carcérale, nous adressons cette supplique à ceux qui, réunis, fêteront l'anniversaire. La mort a-t-elle quitté le monde de la punition? Non. Il n'est jamais mort autant de prisonniers depuis le temps de la malaria de Cayenne. Les prisons actuelles sont des mouroirs où le mortifère est élevé sur des autels aux fleurs incompressibles. Prison hôpital, prison asile, prison hospice, suicide, automutilation, folie, mort lente, violence des surveillants et d'autres prisonniers arbitraires. C'est pourquoi nous appelons à marquer chaque occasion de notre présence collective et consciente. Et le 9 octobre, nous devons faire acte de présence par une journée de lutte, grève des plateaux, grève des ateliers, blocage. Toutes les initiatives sont à étudier sur les coursives. Et sinon, voilà, et donc. Et du coup, ça. Et du coup, pour ce journal, L'Envolé, nous a donné envie de revenir sur le CAP qui était vraiment un porte-voix des prisonniers.
À cette époque. Alors, petit rappel historique. En février 1971, donc à l'occasion d'une rencontre entre Michel Foucault, hein, dont on ne le présente plus aujourd'hui, un intellectuel très critique à cette époque, et Serge Livrozet, cambrioleur et anarchiste, qui a été maintes fois incarcéré, naît le GIP, le groupe d'information sur les prisons, dont le but est de porter à l'extérieur des prisons les paroles des détenus et de faire connaître la réalité carcérale, notamment à une période où les révoltes massives et intérieures se multiplient. Leur objectif n'étant surtout pas celui de parler pour, mais bien de créer un outil permettant aux détenus et ex-détenus de s'exprimer par eux-mêmes, de raconter leur propre histoire, le GIP s'efface peu à peu jusqu'à sa dissolution en 1972. Alors ceci donne de suite naissance au CAP, dont tu as parlé tout à l'heure, les comités d'action des prisonniers, qui a été un journal et surtout un mouvement de lutte qui existera jusqu'en 1980. Il y a 7 numéros qui paraîtront. C'est la première fois qu'un mouvement collectif organisé de tôlards voit le jour publiquement. Alors bien entendu, il y a eu énormément de mouvements de prisonniers qui ont existé avant cette date, mais c'est la première fois que la parole est prise publique et qu'elle est relayée à l'extérieur, en tout cas d'une manière plus massive. Il porte des revendications immédiates et matérielles concernant l'amélioration des conditions de détention, mais également un discours abolitionniste et anticarcéral sur la société. Il se fait également, et bien évidemment, le relais des luttes contre les QHS, donc ces quartiers de haute sécurité, dont on vous reparlera sûrement en fin d'émission, dont la répression est bien entendu féroce et assez mortifère tout au long des années 70. Ce journal, il s'arrête en 1980, mais pas le mouvement, qui reste la source des outils de lutte anticarcérale que nous connaissons aujourd'hui encore. Donc on a parlé de L'Envolé, de bien d'autres nombres d'émissions de radio, Parloir Libre Paris, mais également Marseille, Ras les Murs, etc. Un peu partout, Bruit de Tôle aussi, Toulouse.
Écoutez un morceau d'un prisonnier qui s'appelle Le sens de la peine.
Allez.
Le sens de la peine. Jamais les peines prononcées par les cours d'assises n'ont été aussi lourdes. Jamais les aménagements de peine n'ont été aussi chiches, pour ne pas dire inexistants. Jamais on ne s'est autant suicidé en prison. Nouveau temps, nouvelle technique, plus propre, plus efficace, sans effusion de sang, mais tout aussi violente et meurtrière. Les récents débats parlementaires n'ont absolument rien de révolutionnaire en la matière. En 1789, l'Assemblée constituante considérait qu'une peine de plus de 10 ans d'emprisonnement était un châtiment plus cruel que la mort. Même les députés du XIXe siècle étaient moins frileux sur ces questions. Après la fermeture définitive de Cayenne en 1945, les peines effectivement purgées ne dépassent pas en général 15 ans, y compris pour un condamné à perpétuité. Un condamné à mort, gracié, pouvait sortir au bout de 20 ans. C'était avant l'apparition des peines de sûreté, qui portent le minimum du temps d'incarcération à 18, 20, 22, jusqu'à 30 ans. Aujourd'hui, un perpète subit sa peine de sûreté et attend ensuite plusieurs années une hypothétique conditionnelle. Il ne peut guère espérer sortir avant d'avoir fait au moins 22 ans de placard.
En 2011, alors que la République célèbre les 20 ans de l'abolition, une semaine de lutte contre les longues peines s'organise, dont les principaux concernés ne cessent de dénoncer depuis une décennie au moins leurs conditions et l'allongement incessant des durées d'incarcération, ce qu'on vient d'entendre, ce qu'ils nomment la peine de mort lente. Et c'est dans ce contexte que le témoignage de Christophe Soulier, qui est donc un ancien acteur des CAP, a été enregistré à la suite de la parution de son livre sur l'histoire des CAP. Et c'est ce que nous allons donc vous rediffuser aujourd'hui pour que cette mémoire ne s'efface pas.
La question de l'abolition de la prison, qui effectivement contient la question de l'abolition des longues peines, de fait. Et cette question de l'abolition de la prison portée par un mouvement de prisonniers dans les années 70 qui a construit cette question par des actions, par des réflexions et surtout par un journal. Donc c'est à la fois l'histoire d'un mouvement et d'un journal qui a traversé quasiment toute la décennie, une bonne partie de la décennie 70, à une époque où je trouve que le débat sur la prison a été posé d'une certaine manière avec une grande qualité et qui fait toujours sens aujourd'hui à questionner, de 1972 à 1980. Mais dans les années 70, ce que je trouve original et intéressant par rapport à la période actuelle, c'est que des prisonniers ont pris la parole collectivement et à partir de leur parole, ils ont tiré des conclusions politiques, une analyse de la prison, de leur point de vue, à partir de ce qu'ils vivaient. Et ils ont conquis à partir de là une place dans l'espace public, donc ils ont construit un débat par d'eux-mêmes, donc c'est pas le débat partait d'eux. Et je pense que là aussi c'est un renversement assez fondamental par rapport à ce qui se passe en principe. Et à partir de cette expérience, ils ont à la fois articulé des revendications immédiates autour de la question de ce qu'ils vivaient concrètement, donc des améliorations soit juridiques, je prends par exemple l'abolition de la contrainte par corps ou l'abolition de l'interdiction de séjour, et aussi des côtés pratiques sur le droit à la lecture, le droit à différence à l'information, aux rencontres qui pouvaient, et ces revendications étaient l'expression des révoltes qui ont traversé les prisons au tout début des années 70. Et l'autre originalité de ce mouvement, c'est d'avoir une plateforme de 12 points. 11 points, ce sont des revendications concrètes, satisfaisables quasiment, je dirais, immédiatement. Et le 12e point, c'est l'abolition de la prison, qui évidemment, lui, ça donne une autre perspective. Mais évidemment, ça ne joue pas le même rôle, mais ça ancre le mouvement dans une certaine dynamique et une perspective qui lui évite d'être intégré et récupéré et être finalement un simple mouvement de réforme de la prison. Sachant que l'action du CAP aussi débouche sur des réformes de la prison. Mais il ne se contente pas de ça. Donc, ce qui leur a permis de participer au débat, donc là, je suis toujours pour situer à peu près le problème. Effectivement, on est après mai 68, il y a une critique des institutions, et il y a des mouvements qui sont confrontés à l'appareil judiciaire, avec des militants qui se retrouvent en prison, et donc notamment de la mouvance dite maoïste, la gauche prolétarienne. À partir de là, ils se constituent un collectif de soutien à ces militants. Mais très vite, ce collectif se transforme en autre chose, en un groupe d'information sur les prisons, qui ne prend plus la question du prisonnier politique, mais la question de la prison, autour d'intellectuels comme Michel Foucault, Pierre Vidal-Naquet, et puis les gens de la revue Esprit, Jean-Marie Domenac, Paul Thibault. Et donc là, on a quelque chose aussi de déjà original qui se construit et qui débouche aussi sur le CAP, c'est-à-dire qui ouvre l'espace, notamment l'accès aux médias. Se dire ancien prisonnier et vouloir avoir accès au monde, ça ferait rigoler, je veux dire. Dans ce contexte, on voit quand même des gens qui posent la critique de la prison à la une du monde. Ça débouche aussi là-dessus. J'ai travaillé sur cette période, donc j'ai vu l'évolution aussi d'un journal qui était un journal très institutionnel, qui est le journal L'émanation de la République, voulu par De Gaulle, La Voix de la France, Le Monde. Et le Monde est porteur de ces débats aussi. En 80, j'ai milité sur la question de la prison et j'ai appartenu à un mouvement qui s'appelait le Réseau Défense Libre, ou qui était animé par des anciens du Comité d'action des prisonniers. Donc, à partir de là, j'ai eu accès aux archives, j'ai eu accès aux témoignages, j'ai eu accès à des gens. Et cette histoire m'a semblé très intéressante à écrire et à la construire autour de l'idée d'un organe d'information, du journal. Mais très vite, je me suis rendu compte que c'était plus qu'un journal, que c'était un mouvement, mais que le journal et le mouvement étaient indissociables. Et il y a une certaine dialectique qui se passe à ce niveau. La genèse du CAP, d'où ça vient? Donc CAP, Comité d'action des prisonniers, et puis le nom du journal, le CAP. Et le CAP, c'est l'abolition de la prison. On peut tout à fait imaginer le jeu. Donc des révoltes de prisonniers, il y en a dans les années, au début des années 70. On peut supposer que les révoltes des prisonniers, il y en a toujours eu, je veux dire, c'est pas nouveau. Et là, on a quand même un groupe qui prend la parole collectivement. Et ça, je pense que par contre c'est nouveau, qui porte une critique sociale beaucoup plus large. Il y a vraiment des choses qui se mettent en œuvre et qui construisent vraiment une autre perspective. Et c'est lié à ce contexte. Donc, le point de départ... pour moi, et je pense que tout le monde peut être d'accord là-dessus, sur la lutte des prisonniers maoïstes. Donc au début des années 70, donc la gauche prolétarienne est un mouvement issu d'après 68 qui fait feu de tout bois à un moment donné, qui fait des actions et qui en amène un certain nombre en prison. Peut-être 100, 200 personnes qui sont en tôle à ce moment-là. Le mouvement se pose la question de les soutenir. Ils veulent un statut politique et ça c'est une des questions importantes. Donc ça part, cette lutte des prisonniers maoïstes avec des grèves de la faim, de la revendication d'un statut politique. Le statut politique en France n'existe pas. Il y avait le FLN algérien qui avait obtenu un régime spécial, qui avait mené des luttes dans les années, donc au début des années 60, je pense, et en tout cas il y a eu des luttes collectives au niveau du FLN. Donc là, les Mao reprennent un peu la même dynamique, avec des comités de soutien, un mouvement qui s'est recréé, qui avait déjà existé, qui s'appelle le Secours Rouge, et qui anime des comités contre la répression. Et puis, des intellectuels qui, au départ, sont conçus pour être l'amplificateur de cette revendication. Et là, ces gens-là, ils n'ont pas envie d'être un simple relais de la gauche prolétarienne, et c'est là que, tout d'un coup, ils posent une autre question. On peut dire que là, Michel Foucault joue un rôle fondamental. Tout d'un coup, il déborde donc les Mao et il lance un dispositif, il met en place un dispositif, le GIP, le groupe Information Prison, qui met en place des systèmes d'enquête collective. Les enquêteurs, les enquêtés sont quasiment les mêmes. En tout cas, on est dans un dispositif où il n'y a pas des enquêteurs et des enquêtés. Et où on pose la question de l'intolérable. Donc ça s'appelle des enquêtes intolérance. Parce que effectivement, les prisonniers maoïstes ont constaté les conditions de détention et ils en ont fait part à leurs camarades, etc. Donc ça a circulé. Il arrive des témoignages et le GIP monte ce dispositif. Ils vont aux portes des prisons, ils distribuent les enquêtes et il y a des questionnaires qui reviennent, les gens les dépouillent. Ça constitue une dynamique autour des conditions de vie épouvantables des prisons françaises en ce début des années 70. Là, on est donc dans un dispositif qui est assez nouveau et puis qui remet donc en cause même le système avec des détenteurs de savoir d'un côté puis ceux qui sont là. Donc là aussi, ça bouscule les représentations habituelles, même dans le champ du savoir, qu'il n'y a pas que ceux qui analysent et puis d'un côté et puis ceux qui reçoivent l'analyse de l'autre. Donc là aussi, on est dans une rupture profonde. Le GIP a un rôle déterminant dans l'émergence du CAP. Le GIP est lié aussi à un contexte carcéral du début des années 70 qui est bien particulier et qui est marqué donc par ces révoltes dont j'ai parlé. Donc des grandes révoltes de prison. Alors il y avait une grande révolte de prison en 67 à la Santé, mais qui n'avait pas débouché sur un mouvement. Là, on est quand même. Il y a eu 68 entre 67 et 70, 71, et donc la donne a changé. Et la prison donc est contestée de l'extérieur par des groupes comme le GIP et de l'intérieur par les prisonniers eux-mêmes. Elle est contestée à la fois dans son fonctionnement et elle est contestée également dans sa finalité, dans sa place dans les dispositifs de pouvoir. Donc c'est une contestation qui va relativement loin et qui remet même en cause la manière de fonctionner de tout l'ensemble du système social. Donc au début de la décennie 70, ce sont les conditions matérielles de la détention qui sont mises sur la place publique. Moi, en 71, c'est la révolte de Toul. Les révoltes se focalisent contre l'arbitraire du système pénitentiaire. Les zones de non-droit, ça c'est quelque chose qui revient. Jean-Marie Domenach, la rue du Esprit, il dit les prisonniers rentrent dans le droit en revendiquant des droits, donc c'est pour lui un signe de réinsertion. Lui, c'est la tendance vraiment très réformiste. Hein. Et puis, autour de la négation de la personnalité, il y a des choses très graves qui se passent à ce moment-là. Et donc, j'en arrive à la révolte de la centrale de Toul. Donc, c'est en novembre-décembre 71. Elle est consécutive d'une mesure vraiment dégueulasse prise par le ministre de la Justice de l'époque, le garde des Sceaux, René Pleven. Pleven, suite à une histoire grave à Clairvaux, décide de supprimer les colis de Noël. Quand on sait ce que les colis de Noël représentent, bon, on imagine ce que ça peut déclencher. Ce qui s'est passé à Clairvaux avant, c'est l'affaire Buffet et Bontemps. Donc ce sont deux détenus qui ont pris en otage une infirmière et un gardien, et puis ça s'est mal passé, ils les ont tués. tout de suite la presse se focalise, comme ça fait maintenant, juste sur l'émotion. Il y a deux personnes assassinées par des tolards, donc il faut faire quelque chose, quoi. Donc la mesure, c'est la suppression des colis de Noël qui suit, qui, consécutive de ça. Mais à un moment donné, c'est dans le Monde, c'est un ancien juge d'application des peines qui témoigne et qui rapporte des faits qui se sont passés à Clairvaux avant et qui ont créé un climat bien particulier dans la centrale. Et notamment, il y avait un groupe de prisonniers, une dizaine, qui avaient voulu s'évader en creusant un tunnel. Ils ont été détectés et au lieu simplement de les arrêter, les gardiens ont inondé le tunnel pour les sortir à moitié noyés et les ont tabassés publiquement dans la cour des promenades. Et le juge d'application des peines de l'époque dit que là, il y a un climat de haine qui a été semé à Clairvaux ce jour-là et qui laissera des traces. Et ça, c'est un rapport qui a été fait avant l'affaire Buffet-Bontemps. Le Monde ressort ce rapport après. Et effectivement, tout d'un coup, ça donne un autre éclairage. L'affaire Buffet-Bontemps, bon, ils ont tué une infirmière à Maton, mais il y avait un climat qui était antérieur à ça. Et là, tout d'un coup, la campagne s'arrête autour du sécuritaire. Il y a des gens qui essayent de comprendre un peu ce qui se passe. Là, évidemment, la question des traitements dégradants et du mépris est posée. La révolte de Toul éclate. Et on retrouve la même question. C'est-à-dire que là, on a un directeur, Belgaliana, qui est un type qui se permet d'attacher les détenus avec des ceintures de contention et les laisser, les détenus punis, de les laisser attacher comme ça. C'est un type qui est vicieux ou quasiment pervers. La révolte éclate dans un premier temps. Après, il y a pour faire rentrer les choses dans l'ordre, il y a des promesses qui sont faites, qui ne sont pas tenues. Et donc, une semaine après, la révolte redémarre. Donc là, c'est les fameuses images caractéristiques des prisons où les prisonniers sont sur les toits et proclament leurs revendications. Mais là, c'est contre Galliana, on est sur simplement le respect de la personne humaine, quoi. On est dans cette dimension. Toul, en plus, c'est une prison de jeunes détenus plutôt, hein. La répression est féroce. Le docteur Rose, psychiatre de la prison, dénonce ce qui se passe à Toul. Elle est quasiment attaquée par la hiérarchie. L'aumônier, pareil, de la prison. Et donc le GIP, qui à l'époque c'est le GIP, fait un comité vérité-justice et fait une enquête. Et il y a un livre qui sort après, La révolte de la centrale née à Toul, et qui met en cause vraiment la personnalité du directeur. Donc on voit que dans un système comme la prison, un directeur qui est un peu fêlé peut jouer un rôle déterminant. Les détenus de Toul sont transférés à la prison de Nancy, et en janvier, c'est la prison de Nancy qui se soulève. Donc là, on a une série de révoltes. En quelques mois, il y a énormément de prisons qui se soulèvent. Donc les centrales de Melun, la prison Saint-Paul à Lyon, c'est dans cette période. Je veux dire, ils transfèrent les révoltés aussi. Donc bon, ça diffuse de fait la révolte. Très vite, il y a des cahiers de revendications qui arrivent à la presse. Donc là, il commence à exister quelque chose, quoi, qui se construit autour de revendications précises, qui concernent la vie quotidienne, qui concernent les conditions de vie, qui concernent les conditions de travail. Donc l'attitude du pouvoir reste très ferme. C'est la répression. Ce sont des condamnations, des transferts. Donc c'est la méthode habituelle. Donc c'est là que le cap va directement émerger dans ce contexte en 1972, autour de prisonniers qui sortent de la prison de Melun, la centrale de Melun. Et la centrale de Melun a mené des luttes qui sont également très significatives. C'est l'imprimerie pénitentiaire. Ils se sont servis de l'imprimerie pour faire des affiches, distribuer des tracts dans la prison. Et là aussi, il y a les plateformes. Et là, on est devant des gens qui ont été stratèges, qui n'ont pas fait n'importe quoi, qui ont appris aussi à se battre. Et c'est eux qui lancent le comité d'action des prisonniers, avec au départ des gens comme Michel Foucault, qui figure dans l'Ours du journal pendant les premiers numéros, et Daniel Defer, qui était le compagnon de Michel Foucault et qu'on a retrouvé dans l'organisation Aide par rapport au sida. I hear the train a coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom prison and time keeps dragging on. But that train keeps a-rollin' on down to San Antone.
When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. If they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
En 1974, toujours le contexte, on a Pompidou qui est mort, et il y a les élections présidentielles, et il y a Giscard d'Estaing qui est élu, et qui arrive sur des bases très réformatrices, en tout cas qui se... On est quand même pas loin après 68, donc il y a une attente de changement dans les prisons. On pense que le pouvoir va peut-être discuter et négocier, et d'ailleurs, Giscard va serrer la main à un prisonnier à la prison Saint-Paul à Lyon. Donc c'est un signe. Et il crée un secrétariat d'État à la condition pénitentiaire. Dans le même temps, c'est l'été 74, il y a une déception parce que ça ne bouge pas. Et ce sont il y a toute une série de révoltes qui reprennent en 74, ce qu'on appelle le mai 68 des prisons, où là, les révoltes sont réprimées très violemment, puisque il y a un certain nombre de morts, il y a beaucoup de blessés, il y a des prisons entièrement détruites. Donc comme la centrale d'Aix dans le Lot-et-Garonne, il y a Clairvaux, il y a... Donc les revendications, je les liste, ce sont autour des la question des salaires par rapport au travail pénal, des meilleures conditions de détention et la mise en cause des procédures judiciaires. Et ceux qui finalement essayent de récupérer les révoltes de leur point de vue, ce sont les syndicats de surveillants, qui eux effectivement vont avancer la question de la parité avec la police... la question pénale est largement sortie de la prison à ce moment-là, et elle est posée vraiment dans l'opinion, elle est posée face à l'État. Et ces révoltes aussi révèlent le décalage entre les conditions de vie à cette époque-là, à l'extérieur, et les conditions de vie en prison. Et le décalage est tellement gros que ça ne tient pas. Donc ces révoltes, elles débouchent sur la réforme de 1975, comment dirais-je, elle est vicieuse ou ambiguë. En tout cas, d'un côté... Elle introduit une libéralisation de certains régimes, mais elle endurcit d'autres. Donc on est dans deux logiques contradictoires. Elle introduit vraiment trois régimes de détention au niveau des condamnés. Les quartiers de sécurité renforcés, mais elle endurcit d'autres. Donc on est dans deux logiques contradictoires. Elle introduit vraiment trois régimes de détention au niveau des condamnés. Les quartiers de sécurité renforcés, les maisons centrales et les centres de détention. On glisse plus vers la question du sécuritaire à ce moment-là. Parce que, évidemment, entre le QSR, la maison centrale et le centre de détention, les conditions de détention, du fait des règlements et des systèmes, ne sont pas du tout les mêmes. Elle aboutit aussi, à mon avis, à la fin des révoltes collectives de cette période-là. C'est-à-dire que l'administration pénitentiaire gère la population pénale avec ce système, et donc les révoltes collectives sont beaucoup plus difficiles, mais par contre on voit émerger des révoltes beaucoup plus restreintes, mais à partir des lieux où se passent les situations les plus inhumaines, donc les quartiers de sécurité renforcés ou les quartiers d'haute sécurité, ce qu'on appelait les QHS, et qui sont portés par des gens qui ont été très médiatisés, comme Mesrine, Taleb Adjadj, Daniel Debriel, Roland Agré ou Roger Knobel Peace. Le CAP se construit comme un acteur principal de la contestation de la prison à partir de 72. Certainement, il n'y a pas de carte d'adhérent, donc je n'ai pas pu voir. Je pense que c'est relativement réduit. Mais par contre, la capacité à construire un problème et à faire bouger le système est quand même très forte. Ça s'appuie quand même sur une situation, un contexte qui bouge. Ils font beaucoup d'actions très très provocatrices pour déclencher des réactions. Et là, par exemple, on a Serge Livrosé qui assiste à un procès en Alsace, je crois, et qui crie pourriture de justice. Bon, évidemment, il est arrêté, il est condamné. Et à partir de ça, il y a tout un débat là-dessus qui arrive dans le journal, dans le Monde, où tout ça relaye ça. Et donc, du coup, ça fait parler des problèmes autour de l'institution judiciaire. Le CAP organise des manifs aussi, contre le mitard, contre la peine de mort. Ça correspond à des moments très particuliers. La manif contre le mitard, c'est après la mort mystérieuse d'un jeune Antillais à Fleury-Mérogis, qui s'appelle Patrick Mirval. Donc ça pose vraiment la question du mitard, de l'arbitraire et tout ça. La peine de mort existait encore et ça devient aussi un objectif. Donc il y a un courant abolitionniste qui n'était pas propre qu'au CAP, il y avait d'autres gens, mais le CAP est également très présent devant les prisons. Alors là, c'était une bataille. C'est la conquête des trottoirs des prisons, moi j'appelle ça. Évidemment, un journal qui s'adresse à des prisonniers va essayer ne peut pas rentrer en prison du fait du blocage, puisque il y a un système de contrôle et de filtre qui fait que ce qui conteste la prison ne peut pas y rentrer. Par contre, ils vont devant les prisons, s'adresser aux familles. Dans un premier temps, ils se font emballer par les flics. C'est un enjeu. Et donc, ils mettent la pression sur les prisons parisiennes, donc la Santé, Fleury, Fresnes. Et là, il y a toute une dynamique qui se passe. Par exemple, il y a 15 personnes un samedi. Le samedi suivant, il y en a 30. Le samedi suivant, il y en a 50, etc. Au fur et à mesure qu'ils se font emballer, il y en a plus qui arrivent. Il y a des lycéens qui se joignent à eux. Il y a d'autres gens qui se joignent à eux. Autour de la liberté d'informer et du droit à l'information. Et Le Monde, toujours Le Monde, fait plancher un grand juriste qui fait une page entière dans Le Monde où il analyse qu'effectivement, on n'a pas le droit d'arrêter les gens. Il y a des conditions légales qui font que les gens peuvent vendre le journal comme ça. Du coup, les interpellations s'arrêtent. On a la même chose au Palais de Justice de Paris. Donc pareil, et puis rebelote, et puis conquête du lieu. Ça crée une dynamique très forte, et après ils vont essayer de rentrer en prison. Donc là, ça se passe après la réforme de 75, où théoriquement la presse peut rentrer en prison. Les grands directeurs, la Santé et compagnie, ils ne veulent pas que le CAP rentre. Il n'y a aucune raison. Le journal n'est pas saisi, alors qu'il est déposé, il est diffusé en kiosque, il est diffusé par la MEP. Mais c'est la résistance interne de la pénitentiaire qui l'empêche de rentrer, au mépris de la légalité. Perfitte, après que le ministre de la Justice promet que le CAP va rentrer, mais finalement il cède à ce qu'on appelle le lobby pénitentiaire, et au contraire, il fait pondre un décret qui donne un outil pour interdire l'entrée du CAP. Outil très vague d'ailleurs, qui est justement cette fameuse menace de la sécurité intérieure. Et les autres grandes campagnes qui sont menées, c'est contre l'interdiction de séjour, contre la contrainte par corps, contre la détention provisoire, contre les QHS. Donc chaque campagne est menée à partir de cas précis, très construits, et qui donnent vraiment du sens. Donc vous savez la contrainte par corps, ce que c'est la prison pour dette. Donc c'est une peine administrative qui était prononcée par le percepteur, je crois, en tout cas par le fisc, avec un barème, tant de fric, tant de dettes, ça se transforme en tant de mois de prison. Je crois que les choses ont été un peu modifiées là-dessus. Moi je donne un exemple, pour 2400 francs à l'époque, on m'a filé 4 mois de contrainte, donc ça donne où on n'a pas de remise de peine, c'est une peine qui tombe, que les flics amènent à la fin, au moment où on va être libéré. Donc on a vraiment le couteau sous la gorge. Et bon, moi j'ai trouvé des amis qui ont rassemblé l'argent, qui ont payé, et je suis sorti, quoi. Sinon je faisais 4 mois de plus. Donc la détention provisoire, vous connaissez. L'interdiction de séjour, c'est on appelle ça la trique. Les détenus, un tribunal peut prononcer l'interdiction de séjour, donc un grand nombre de départements vont être interdits pour le séjour de la personne. Pour les flics, c'est un moyen de recruter des indics, puisque pour habiter à l'endroit où on a envie d'habiter, si on y interdit de séjour, eh ben, faut être un peu coopératif, que c'est un moyen de pression. Et puis, ils font aussi beaucoup d'interventions dans les débats, d'invités dans des usines en grève ou dans des lieux comme ça. Et la particularité de ces interventions, à chaque fois, c'est quand même d'être assumé par des gens qui se disent anciens détenus. Et qui souvent s'appellent les ouvriers détenus, d'ailleurs, qui se donnent autour d'une conscience de classe. Et cette conscience de classe permet d'inverser le stigmate, justement, et de dire finalement, on est en tôle, mais il y a des conditions économiques et sociales qui font qu'on est en tôle, et donc c'est à partir de là qu'on se construit, et ça délégitime d'une certaine manière la prison. Et il y a des, par exemple, dans La Cause du Peuple, le journal de la gauche prolétarienne, on voit des tracts et des textes signés les ouvriers détenus de la centrale de Melun. Et le CAP s'adresse donc par le biais de la presse gauchiste aux ouvriers pour leur dire qu'ils sont des leurs, et il s'adresse également aux détenus pour dire aux détenus que les ouvriers sont aussi des leurs. Donc, pour eux, le prisonnier doit réintégrer le combat de la classe ouvrière, tout en se déculpabilisant. Donc voilà, ça c'est le discours de base du CAP au départ. C'est la misère et l'exploitation qui ont amené quelqu'un à voler. Ce sont donc elles qui sont coupables, ce sont elles qui doivent combattre aux côtés des autres ouvriers, mais ceux-ci doivent aussi reconnaître que les tôlards sont des leurs. Et là, on a deux obstacles qui sont constatés dans le journal. Que la mentalité du tôlard moyen n'est pas prête à se mettre en phase avec la lutte de classe, avec le combat de la classe ouvrière. Et que du côté des syndicats, par exemple, et ouvriers, il n'y a pas non plus d'écoute de ces revendications-là. Donc on peut dire que cette parole reste cantonnée à la marge du mouvement ouvrier. Je dirais les courants anarchistes, trotskistes, maoïstes de l'époque. Et en 76, le mouvement, il y a un débat interne, mais qui est dans la colonne du journal, et le mouvement tire un constat d'échec de sa stratégie. La stratégie étant, donc on réintègre le combat de la classe ouvrière autour d'un mouvement de masse, et ça, en 76, en fait, ça n'a pas marché. Cette conscience de classe, je pense, a été fondamentale pour s'assumer politiquement, et pour essayer d'établir des contacts avec les surveillants sur des bases de classe, parce que ça aussi ça va vous sembler bizarre, mais le CAP a essayé aussi de faire un travail politique avec les surveillants. Ça a marché avec certains, quoi, il y avait des débuts, mais les syndicats de surveillants majoritaires de l'époque n'en voulaient pas. Ils ont tout fait pour casser ce truc-là. Et moi, je l'ai constaté. Donc, moi, j'étais pas au CAP, hein, mais j'ai vu des gens du CAP qui étaient dans la prison où j'étais, hein, où j'ai passé 2 ans. Il y avait une capacité à discuter et à prendre les gardiens sur leurs contradictions autour de cette conscience de classe, qui était quand même, moi, qui m'avait étonné, qui m'a surpris aussi. Alors après, c'est marrant parce que la CGT de l'époque pénitentiaire est horrible, hein. CGTF et FO, ce sont les deux syndicats qui sont majoritaires, et qui, la CGT pénitentiaire est pour la peine de mort, ils appellent à voter Chiscar, c'est pas un syndicat CGT classique. Si bien que la Confédération le dissout au début des années 80, il se recrée un nouveau syndicat CGT après, et qui, lui, va reprendre l'analyse de classe autour de la prison. Donc la conscience de classe a été importante pour créer aussi, pour aller vers d'autres milieux, pour circuler, pour s'affirmer donc en tant qu'ancien tôlard. Mais cette conscience de classe n'était pas aveugle, et c'est aussi un autre point important par rapport au CAP. Ça nous remonte avec les Mao à l'affaire de Bruyères-en-Artois. Donc Bruyères-en-Artois, c'est dans le Pas-de-Calais. C'est une ville où une jeune fille, une adolescente, a été assassinée, et on accuse un notaire d'avoir commis le meurtre au climat de la mine, où on est dans un affrontement de classe qui est quand même assez visible au niveau de l'habitat, du territoire, de plein de choses. Et les Mao s'engouffrent là-dedans, disent le notaire est coupable parce qu'il est notaire, et ils montent des comités vérité justice également, et ils montent toute une campagne qui est animée par un Mao qui a fait une belle carrière après, qui s'appelle Serge Julie, et qui avait été envoyé là pour se ressourcer, parce que on trouvait qu'il fréquentait trop les intellectuels, donc la direction de la GP l'avait envoyé dans le Nord. Il y a un autre type qu'on retrouve au patronat maintenant, qui était un des animateurs de cette campagne, c'est François Ewald, et qui est un des théoriciens de la refondation sociale de Seyer et compagnie. Ces gens-là sont des dirigeants Mao à l'époque dans cet endroit-là, et ils lancent une campagne. Moi, j'ai les numéros de la Cause du Peuple de l'époque. Je trouve c'est vraiment franchement du délire. Et là, le CAP dit non, c'est pas possible. C'est la rupture avec les Mao à ce moment-là, et qui leur permet de vraiment, disons. Ils auraient pu être instrumentalisés complètement par les Mao, qui en auraient fait un mouvement de masse, comme ils faisaient avec d'autres milieux, avec les travailleurs immigrés, avec les jeunes. Bon, on est dans un cadre classique où il y a un groupe politique qui instrumentalise des groupes plus larges pour les articuler sur leur lutte. Mais là, c'est cette affaire qui éclate au tout début, 72, enfin, au moment de la naissance du CAP, permet aussi au CAP d'affirmer la prison pour personne. Et donc c'est là que très vite le CAP introduit son 12e point dans sa plateforme, qui est l'abolition de la prison. C'est, je pense, cette histoire a précipité cette chose. Et alors donc, on est bien dans une contradiction apparente entre l'amélioration d'un côté, la suppression de l'autre, mais on n'est pas dans le même temps. On a les revendications immédiates qui mobilisent, et on a une perspective qui est l'abolition. Et je pense que ça aussi, ça a été fondamental. Là aussi, comme la conscience de classe a permis aux gens de s'affirmer, le point 12, l'abolition de la prison, a permis au CAP d'avancer sans être récupéré. Le CAP entend défendre globalement tous les prisonniers, mais il va se mettre aux côtés de prisonniers qui bougent et qui luttent. C'est pas une avant-garde qui va tirer vers lui. Là aussi, on est dans un rapport de construction ensemble de quelque chose. Le CAP donc ne diffuse pas de mordeur de révolte. C'est aux intéressés à se révolter, parce que le CAP est animé par des sortants de prison, des gens qui sont sortis de prison, sinon ils ne pourraient pas l'animer. Le rôle qui se donne, qui apparaît très vite dans les colonnes du journal, c'est informer, expliquer, transcrire les revendications, sans faire l'écho. Il ne se veut pas du tout représentatif, c'est pas un syndicat. On assiste vraiment à cette rupture importante. Et là, je me réfère à un texte de Foucault, qui préface le livre de Serge Livrosé, De la prison à la révolte, qui sort en 72. Et Foucault fait la préface, ça annonce ce qui se passe au niveau de la parole. Et qu'est-ce qui se passe de fondamental et qui est une rupture ? C'est le renversement du discours dominant de la criminologie. La criminologie, elle individualise, elle sépare, elle psychologise. Et elle évacue les causes économiques et sociales de la délinquance. Et pour le CAP, toute délinquance a une origine politique, économique et sociale. Le CAP explique à partir de ce moment-là, tout prisonnier est politique, pour répondre aux revendications de statut politique. Et que la délinquance a deux grandes causes, la prison elle-même, en fabriquant de la récidive, et la société, par ses contradictions et les tensions qui s'opèrent sur les personnes. La prison, pourquoi ? Parce que les gens en sortent très démunis, donc ils n'ont pas trop de conditions de survie. Donc et puis en plus, c'est un milieu qui favorise la récidive, et c'est un facteur de déséquilibre psychique et affectif. Donc c'est comme ça que le CAP voit l'impact de la prison. Par rapport à la pauvreté en prison, bon, il y a eu les écrits de Anne-Marie Marchetti, qui est une sociologue qui est décédée, mais qui montre bien que ce sont des gens pauvres qui rentrent en prison et qui en sortent encore plus pauvres. Ensuite, la société. Donc toujours le CAP qui reprend la période de 1939 à 1962. Donc on est au niveau population pénale, on est dans la suite de ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu des guerres incessantes, la Deuxième Guerre mondiale et puis toutes les guerres coloniales. Et qu'est-ce que c'est que ces guerres ? Ils estiment que plusieurs générations ont été profondément marquées par les meurtres, les pillages, les viols, les tortures, tout ce qui est alors là au niveau de la guerre d'Algérie, on le sait comme ça a fait des dégâts quoi. On en parle depuis quelques temps, mais à l'époque, on n'en parlait pas. Dans les gens du CAP, il y avait des anciens de la guerre d'Algérie. Et même, je pourrais même dire des commandos Delta de l'OAS. Bon, c'est assez marrant. Là, il y a des gens qui suivent des trajectoires qui se transforment. Parce que, aller des commandos Delta au CAP, je trouve qu'il y a un certain trajet. Les commandos Delta, c'était les groupes de choc de l'OAS qui assassinaient des gens. Ensuite, ils pensent que dans les causes sociales de la société, il y a la propriété privée, qui est une source de jalousie, de lutte pour l'appropriation de biens, des désirs de possession. Et il y a l'existence du vol à tous les échelons. Donc le vol existe partout. Le salariat, c'est un vol, la consommation, le commerce, bon, tout ça, à chaque fois il y a des gens qui prélèvent, qui... donc ça c'est un vol légal. Et les meurtres, j'estime qu'il y a deux catégories de meurtriers. Il y a le voleur qui ne veut pas, qui peut tuer par panique, et puis il y a le meurtre passionnel qui renvoie à l'idée de possession, donc là il le ramène à la propriété. Et d'une manière générale, les causes de la délinquance et de la criminalité, pour eux, s'appuient sur les inégalités et sur l'exploitation d'une classe par une autre, et sur un fonctionnement autoritaire et répressif, sur la pression qui est mise sur les individus. Donc voilà, ça c'est pour illustrer ce fonctionnement autoritaire et répressif. Ensuite, à partir de ça, l'accusé devient accusateur. Donc si c'est la société qui me produit en tant que délinquant et criminel, à partir de l'analyse que je fais, je renverse à la société en disant ça devient un instrument, au contraire, pour transformer la société. Si on peut voir, il y a beaucoup de choses qui se passent, d'accord, la réponse actuelle, c'est on fait une loi, on va criminaliser encore plus. On peut dire au contraire, interrogeons-nous sur qu'est-ce qui se passe et comment on peut faire autrement. Sur l'augmentation de la délinquance, par exemple, dans les années 60, il y a un truc qui arrive, c'est l'échec. Ben à partir de là, ben il y a eu des infractions au chèque, il y a eu les chèques sans provision. Donc évidemment, ça augmente. C'est un outil nouveau qui crée une nouvelle délinquance. Les téléphones portables ont créé les vols de portables. Ensuite, l'autre aspect important, et qui pour moi, on va prendre la métaphore du rhizome, en tout cas de quelque chose qui se développe et qui devient transversal au lieu des prisonniers, c'est le cap qui, à un moment donné, se construit comme le journal de ceux que la société rejette. Et donc, très vite, dès le numéro 3, on voit une rubrique qui apparaît qui est « Autre prison ». Et « Autre prison », ça concerne... Il y a des orphelins qui parlent. Donc, on a une lutte qui arrive à ce moment-là. C'est la lutte des orphelins d'Auteuil. Donc, c'est un orphelinat à Paris. C'est donc un lieu d'enfermement aussi. Et où les orphelins mènent une lutte sur leurs conditions de vie. Donc le cap est à leur côté, diffuse ce qu'ils disent. On retrouve les handicapés très vite. Alors moi j'ai connu, et j'ai travaillé même j'ai eu leurs archives, avec une amie, Elisabeth Horbacher, handicapée méchante. Donc elle a monté le comité de lutte des handicapés, et elle a écrit un livre, Babette handicapée méchante. Sa lutte rencontre celle des prisonniers. On dit, moi je suis en prison à perpétuité, elle était handicapée. Et donc elle mène des luttes autour du handicap, qui rejoignent aussi. Et elle est présente aussi, on les voit sur les photos du cap, dans les diffusions du journal, devant Fleury, en train de se faire embarquer par les flics avec ses béquilles. Après, elle devient avocate, elle va mener d'autres luttes à l'intérieur des prétoires. À partir de la situation du handicap, elle rencontre celle des prisonniers. Et les handicapés sont aussi à la manif contre la prison de Mende. Les psychiatrisés, disons. Là aussi, il y a des groupes d'abord de travailleurs sociaux, de médecins. Moi, je parle de l'analyse institutionnelle qui est un de mes courants de recherche. Avant, il y a la pédagogie institutionnelle, il y a la thérapie institutionnelle, il y a toutes ces luttes qui ont été menées par des professionnels qui ont renversé les rôles, qui ont élargi le débat, et on les retrouve évidemment là-dedans. Pendant la guerre, le pouvoir a une telle politique que les fous sont destinés à mourir de faim, on les nourrit plus. À l'hôpital Sainte-Anne à Paris, il y a énormément de malades, de patients qui meurent. Et en Lozère, donc à l'hôpital Saint-Alban, il y a des psychiatres, des travailleurs qui bossent et qui décident de reposer tout à fait les choses autrement, qui se constituent en collectif. Il n'y a plus les soignants, les soignés, mais il y a un groupe qui décide de survivre et de se démerder autrement. Et à partir de cette réalité, il va naître un courant antipsychiatrique, et en tout cas qu'on appelle la thérapie institutionnelle, et qu'on retrouve aussi, par extension, dans ces luttes. Autour des rôles, hein, et le soignant, le soigné, le prisonnier, bon, on peut revoir les choses. Les lycéens se retrouvent aux côtés dans le CAP, on retrouve des tracts de lycéens. Les lycéens se retrouvent aux côtés d'action du CAP pour la diffusion du journal. Moi, j'étais au lycée à ce moment-là, je peux dire qu'il y avait un mouvement lycéen qui était fort et qui était assez revendicatif. Moi, c'était un choc dont je ne me suis jamais remis. Et on retrouve aussi les travailleurs immigrés. Donc toutes ces rubriques apparaissent, autres prisons se retrouvent avec les luttes des prisonniers. Livrosé dit à ce moment-là, le CAP est le journal de ceux qui ne s'expriment jamais. Donc c'est à partir de ce constat que se constitue quelque chose de plus large, qui interroge la société, non pas lutte principale, lutte de classe, mais on est sur des luttes plus transversales. Et qui créent des, à partir de situations qui ont un certain lien, qui mettent les gens en mouvement, qui les mettent ensemble, qui font que ça circule. Et on arrive à des situations, à des dénonciations de situations d'enfermement. Et comme les prisonniers et les handicapés sont exploités par le système, donc Babette a énormément dénoncé les CAT et les lieux d'exploitation, les ateliers protégés et tout ça, c'était une des batailles. Et on retrouve aussi ça dans le CAP. Et leur lutte est commune autour du refus de l'exploitation, le refus de la séquestration, le refus de l'exclusion. On tombe sur une autre personne qui a aussi une trajectoire un peu atypique, qui est Jacques Le Sage-Delahaye, qui défend cette transversalité. Et c'est là qu'émerge un mouvement que j'essaye de lancer à ce moment-là, qui s'appelle d'abord la FLAM, Fédération des luttes autonomes marginales, qui très vite échoue, mais qui débouche dans un mouvement qui s'appelle Marge, et qui est consécutif à la venue de Marcuse, donc un sociologue ou philosophe américain, qui vient à Paris et qui lui dit que la révolution va partir des marges du système et qui vont faire bouger le centre. Bon, ce sont des mouvements qui ont essayé de se structurer. Autant la rubrique Autre prison du Cap et les actions comme ça ont marché, les liens, autant créer un mouvement de toutes pièces comme ça, ça n'a pas marché. Mais ce qu'on m'a toujours dit, c'est qu'il y a eu des luttes entre des personnalités fortes et que ça n'a pas débouché vraiment. À part Marche qui a continué. Mais la flamme, non. Il y avait aussi les prostituées qui avaient rallié le mouvement à ce moment-là, puisqu'il y a eu la lutte des prostituées dans les années 75, je crois, avec les occupations d'églises. Et donc, on retrouve aussi dans le CAP les textes des prostituées. Donc, les fous, les prostituées, les tolards, les handicapés, les gnomes. Là, on a la cour des miracles qui se constitue en sujet politique. Et c'est assez intéressant dans le fond, comme interrogation du système social dans son ensemble. L'importance du journal, parce que très vite, avec l'échec de la stratégie mouvement de masse, le mouvement se recentre sur le journal. Et l'objectif devient de construire le journal, de le diffuser avec un journal donc qui accueille les textes et tout ça et qui les renvoie sous une certaine forme. Hein. On est dans un rapport dialectique. Alors le premier numéro est tiré à 10 000 exemplaires, ce qui est pas mal pour un journal de tolard, diffusé par l'NMPP, donc il est en kiosque. Il est financé par des ventes militantes. Mais donc de plus en plus le mouvement existe par le journal et la conquête des trottoirs de prison centre la lutte là-dessus et autour de se faire reconnaître et de se faire connaître. Ils estimaient qu'il y avait 20 000 clients potentiels sur la région parisienne au niveau tolard. Donc l'équilibre financier du journal était là-dessus. Et donc le prix de vente était calculé sur 500 exemplaires. Donc c'est un journal qui marchait. C'est pour ça aussi qu'il a duré. Donc cette bataille pour la conquête de la diffusion a affirmé la primauté du journal et a permis de prendre contact avec les familles. Donc, en plus, cette bataille a été gagnée. Et ça, c'est un des points très importants du CAP. C'était toujours avoir une bataille à mener qui était gagnable et essayer de la gagner. Ça aussi, on n'était pas dans des abstractions. Et à part la bataille pour l'abolition de la prison, je dirais, mais les campagnes qu'ils menaient étaient très concrètes. C'était toujours aussi autour de prendre le système sur ses contradictions. Même quand il y a eu l'article D444 du Code de procédure pénale, qui était l'amendement anti-CAP, qui a été pondu par rapport à la diffusion du journal, ils ont quand même continué la bataille en disant « sécurité, où est-ce que ça menace la sécurité ?» Donc là, c'était impossible de gagner, je pense, parce qu'il y avait trop d'enjeux. Mais ils n'ont pas reculé comme ça, quoi. Et en plus, il y a un ministre qui a trahi sa parole dans l'engagement qu'il avait donné à Foucault, à Clavel et à Mauriac, que le journal pourrait rentrer en prison. En 1975, le journal passe à 50 000 exemplaires, avec des finances très saines. En plus, il y a des apports qualitatifs qui se passent. Il y a eu à un moment donné, il y a eu un hold-up au Figaro. Et il y a un journaliste du Figaro qui est impliqué dans le hold-up en question. Et donc, quand il sort de Tol, ben, il arrive au CAP. Il amène tout son savoir-faire au niveau secrétariat d'action. Et là, on voit la maquette qui change. C'est très, très spectaculaire. Donc là, on a, avec les 50 000 exemplaires, on commence à avoir un vrai journal. Là, il commence à se profiler une tendance à faire un vrai journal commercial. Mais il y a quand même une tendance assez forte qui s'oppose à cette primauté avec peut-être de la pub. Il y a un marché, il pouvait y avoir un marché aussi. Il y a des cantines qui rentrent à ce moment-là en prison après 75, donc pourquoi pas de la pub là-dessus. Le journal reste militant. Mais il y a une diffusion en MPP et moi je me souviens Je me souviens très bien, dans cette période-là, je le voyais en kiosque. Hein. Souvent, bon, des kiosquiers pouvaient le cacher, mais il y avait des kiosques où ça apparaissait. Bon, 76, la diffusion redescend à 30 000, mais c'est quand même pas mal. Et 77, bon, on sent que là, le mouvement s'essouffle, on redescend à 15 000. Et puis après, retour à 5000. Mais c'est quand même des chiffres assez gros, je trouve. Le journal est réalisé par une petite équipe. Le contenu est discuté chaque semaine. Alors, les réunions sont très houleuses. Il y a des personnalités qui s'affrontent. C'est des AG un peu permanentes. Il vient qui a envie d'y aller. Le journal est envoyé systématiquement à tous les gens qui sont attaqués dedans. Donc, les gens, ils savent à quoi s'en tenir. Quand il y a un directeur qui est mis en cause, quand il y a un juge qui est mis en cause, il reçoit en priorité le journal. Le journal, donc ça, c'est Lapéry qui est directeur de publication qui me disait ça, que le journal est un moment de la lutte en lui-même, que l'information y arrive, elle débouche éventuellement sur l'action, qui renaît dans le journal sous la forme de nouvelles. Donc l'information déclenche de l'action, qui redéclenche de l'information, etc. On est aussi dans un cycle, dans un milieu quand même qui fonctionne au secret. Moi, je prends l'exemple, je suis écroué en janvier 78, en pleine histoire des luttes contre les QHS. Je ne sais pas un mot de cette lutte des QHS pendant plusieurs mois. Donc voilà. Pourtant, il y avait des gens dans la prison où j'étais qui étaient en grève de la faim et qui étaient également dedans. Donc là-dedans, l'information, dans un milieu autour du secret, ça devient un enjeu. Et qui lui-même est mobilisateur en soi. Alors, je ne me souviens plus, les animateurs du GIP disaient l'information est une arme. I was serving time in Tehachapi. 4 o'clock in the morning, I was sleeping in my cell. I heard a whistle blow, and I heard somebody yell, "There's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Up in cell block number 9. The trouble all started up in cell block number 4. Red like fire across the prison floor. Warden came in with a big Tommy gun. Bang, bang, bang. Trying to stop my fun, but there's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Up in cell block number 9. Come out with your hands up in the air. You don't stop this riot, you all gonna get the chair. Two gun Matilda said it's too late to quit. Pass the dynamite, Molly, 'cause man, this music is lit. There's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. We're up in cell block number 9. State militia to help them win the fight. Drove up to the prison in the middle of the night. Each and every trooper, he looked so tall and fine. All the chicks went crazy up in cell block number 9. Now there's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Up in cell block number 9. Pour Foucault, un prisonnier qui analyse est un sujet, est le sujet de son discours. Et donc, il bouscule la distribution entre la littérature criminelle d'un côté et le discours scientifique de l'autre. Alors, jusque-là, la condition nécessaire à la publication des mémoires d'un criminel, c'est que il doit raconter sa vie et se contenter de ça. Sa condamnation à la prison doivent apparaître comme une aventure singulière, qui sont des conséquences de la fatalité ou de la démesure. Mais on ne demande pas à un prisonnier, à un ancien prisonnier, d'analyser et de dégager des conclusions politiques. Il doit raconter, il n'a que des souvenirs. Et quand le discours scientifique s'en empare, qu'il représente collectivement en tant que catégorie, là aussi, c'est un regard savant qui se porte sur lui. Le condamné n'existe au pluriel que sous l'effet d'un discours scientifique. Donc là, on a ces deux catégories qui traitent du sujet. Donc l'irruption d'une parole autre de l'infracteur lui-même est vraiment dans ce système un bouleversement considérable. Il le dit pour Livrezet, c'est au tout début, après je dis, moi le cap représente également à la même portée, même plus parce que c'est une portée collective, on n'est plus dans une seule personne, mais on est dans un groupe qui rencontre d'autres, etc. Et qui laisse une mémoire en plus. Quand le prisonnier tire des conclusions politiques du point de vue de l'infracteur, on est dans une rupture très profonde. Mais très vite, les animateurs du CAP ont constaté que ce n'était pas suffisant de donner la parole aux détenus, mais qu'il fallait que cette parole s'inscrive dans le sens d'une lutte contre... Parce qu'effectivement, tous ceux qui ont fait de la radio autour de la prison le savent, on ouvre l'antenne, on va avoir des tas de textes. Après, quel objectif qu'on se donne ? Dans quoi on les inscrit ? C'est une question. Donc c'est la question que s'est posée le CAP. Ils estiment que ne rentreront dans le journal que les textes qui s'inscrivent dans des luttes. Donc là, on est dans un rapport entre le journal et les prisonniers. Je veux dire, on est dans une co-construction de quelque chose ensemble. À partir de ça aussi, il faut que cette parole s'inscrive dans le sens d'une lutte contre la prison qui enferme et contre la justice qui alimente la prison, parce que le constat très vite, c'est qui est-ce qui remplit les prisons ? C'est pas les matons, c'est pas l'administration pénitentiaire, c'est les juges. Et par rapport à une politique qui est menée, une politique pénitentiaire, une politique pénale, là aussi, la question va se poser et la lutte va se porter là-dessus. À partir de ça, le journal s'affirme comme un contre-pouvoir. Il attaque le système sur ses contradictions. Moi, je donne un exemple. À partir de 75, le CAP lance une campagne sur le thème contrôle des juges aux audiences. Donc, les militants du CAP, et j'en ai connu qui allaient faire ça, vont assister aux audiences de flagrant délit. À l'époque, on appelait ça les flags. Maintenant, on dirait comparution immédiate. Ou même d'audience correctionnelle. Et ils vont noter les juges. Donc le bulletin, moi j'en ai vu, est organisé avec le nom et la qualité du magistrat, la date précise, la désignation de la chambre. Il y a 6 critères d'évaluation, là on est très moderne, c'est l'évaluation. Donc il y a le racisme, il y a la phallocratie, il y a le comportement anti-jeune, il y a la partialité, il y a le ton et l'attitude, et il y a le degré de pourriture. Voilà ce qui est évalué. Et les copies de ces bulletins sont évidemment adressées au président de la République, ils sont adressés au ministère de la Justice, ils sont adressés à la presse, ils sont adressés au syndicat de la magistrature. Le CAP travaille pas mal avec le syndicat de la magistrature, en tout cas a des liens, et à l'intéressé lui-même. Le juge reçoit donc son bulletin d'évaluation pour lui permettre de s'amender aussi et de se transformer. Donc là aussi, on est dans une optique de transformation. Alors cette aventure collective prend fin en avril 1980 avec la sortie du numéro 67. Là on peut dire que c'est l'essoufflement quand même, qu'il y a une partie de l'équipe qui est quand même nettement usée, ça sent dans les textes, et puis il y en a une autre qui veut continuer. Donc on arrive, les conflits personnels prennent le dessus, les derniers numéros sont éprouvants à lire de ce point de vue, j'ai trouvé. Moi je les ai vécus comme ça. Et donc l'autodissolution du CAP est prononcée en 80. Et là, il y a des militants qui décident de poursuivre le combat sur le terrain judiciaire et autour d'une revue qui s'appelle Le CAP, toujours, mais CAP Nouvelle Série, et autour d'un nouveau mouvement qui s'appelle le Comité d'Action Prison Justice. Donc autour de l'analyse, qui est-ce qui remplit les prisons ? C'est la justice. Donc si on veut abolir la prison, si on veut se battre la prison, on va faire reculer la prison sur ce terrain-là. Et il se crée un réseau auquel j'ai appartenu, qui est le réseau Défense Libre, qui se constitue là-dessus et qui amène à lui des...
Il y a eu
des
luttes,
les insoumis, plus restreints, qui ont marqué. Il y a eu les squats. On a beaucoup travaillé avec les occupants rénovateurs du 19e arrondissement. Et donc là, il y a eu des résultats très concrets. Là aussi, toute la collection du journal relate les différents coups à partir de cas beaucoup plus individuels, mais qui sont interrogés et qui interrogent le système. Et avec l'optique de faire sortir des gens de prison par le biais de la procédure et du combat judiciaire, donc au niveau du dossier. Donc pour moi, évidemment, tout ce qui a agité le CAP dans ces années-là sont toujours d'actualité. Je pense qu'il y a une réflexion très forte qui a été posée à ce moment-là, qui part des intéressés eux-mêmes, qui rencontre d'autres raisons. Moi, il y a un magistrat qui a beaucoup travaillé avec le CAP, qui était juge d'application des peines à Poissy, et qui donnait des permissions de sortir à des prisonniers pour aller aux réunions du CAP. Donc voilà, le CAP a été capable aussi d'intégrer des gens comme ça et de travailler avec eux. Et ça produit vraiment une réflexion. Bon, il y a aussi des visiteurs avec qui ils ont pu travailler. Il y a beaucoup de gens, des travailleurs sociaux, moi j'en ai rencontré aussi, qui se sont retrouvés dans cette réflexion. et qui ont amené aussi leurs interrogations, leurs problèmes. Et donc, je pense que, bon, le livre est introuvable, mais enfin, je pense que c'est intéressant de se replonger dans cette histoire, ou d'aller voir à partir d'archives, ou je sais pas, en tout cas, bon, trouver un moyen. Mais, on y trouve quand même des points qui, moi, dans le discours actuel, qui me hérissent, c'est quand même des contrepoints. On est dans un autre chose. Et c'est porté par les intéressés.
Singulier pluriel qui ne fait pas d'histoire sur le créneau de l'émission Libre Débat. On vient d'écouter donc l'enregistrement, l'interview de Christian Soulier qui nous a raconté dans les grandes lignes l'histoire donc des cellules anticarcérales des années 70 à travers l'existence du CAP, donc Comité d'Action Prisonnier. Pour rebondir sur cette interview, on va également vous diffuser un appel qui date de 2003. Qui fait suite donc à la célébration des 20 ans de l'abolition de la peine de mort, alors que l'État se réjouissait de son côté humaniste. Certains prisonniers enfermés depuis plusieurs décennies et qui le sont pour certains encore, lancer cet appel que vous allez entendre dans quelques instants.
À ceux de l'extérieur osant affirmer que la peine de mort est abolie, silence. On achève bien les chevaux. Nous, les emmurés vivant à perpétuité du centre pénitentiaire le plus sécuritaire de France, dont aucun de nous ne vaut un papon, nous en appelons au rétablissement effectif de la peine de mort pour nous. Assez d'hypocrisie. Dès lors qu'on nous voue en réalité à une perpétuité réelle, sans aucune perspective effective de libération à l'issue de notre peine de sûreté, nous préférons encore en finir une bonne fois pour toutes que de nous voir crever à petit feu, sans espoir d'aucun lendemain, après bien plus de 20 années de misère absolue. À l'inverse des autres pays européens, derrière les murs gris de ces prisons indignes, la République des Lumières et des Libertés de 2006 nous torture et nous anéantit tranquillement, en toute apparente légalité, au nom du peuple français, en nous assénant en fonction du climat social ou à la faveur d'un fait divers ou encore d'échéances électorales, mesure répressive sur mesure répressive, sur le fondement du dogme en vogue du tout sécuritaire, érigé en principe premier, supplantant tous les autres.
Qu'on se rassure, de nos jours ici, même les mauvaises herbes ne repoussent plus. Il n'y a que le noir et le désespoir, de surenchère en surenchère. La machine à broyer l'homme a pris impitoyablement le pas. À quoi servent les peines de sûreté qu'on nous inflige, quand une fois leur durée dûment purgée, on n'a aucun espoir de recouvrer la liberté? Depuis l'année 2000, à la loi Perben 2 de 2005, on a fait mine de s'appliquer à légiférer en instituant de nouvelles juridictions de libération conditionnelle. Seulement, comme hier le ministre de la Justice, les juges d'aujourd'hui, à l'oreille de l'administration, nous opposent. Refus sur refus, nous vouant à des durées de détention à la Lucien Léger. Pourtant, sur la finalité de la peine, l'État français, admettant que nous avons vocation de sortir un jour et s'inscrivant dans le cadre des recommandations du Conseil de l'Europe, a posé pour principe s'étendant aux longues peines et aux 700 condamnés à perpétuité que l'exécution des peines privatives de liberté a été conçue non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer sa réinsertion. En réalité, tout est au châtiment. Combien d'entre nous, du moins pour ceux qui ne sont pas décédés depuis, ont déjà purgé plusieurs années au-delà même de leur peine de sûreté de 18 ans, sans se voir présenter, à ce jour, une réelle perspective de libération? Après de telles durées de prison, tout rescapé ne peut que sortir au mieux sénile et totalement brisé. En pareil cas, qui peut vraiment se réinsérer socialement? En fait, pour toute alternative, comme avant 1981, ne nous reste-t-il pas mieux à trouver plus rapidement dans la mort notre liberté?
De surcroît, pour nous amener à nous plier à ce sort d'enterré vif, on nous a ces dernières années rajouté murs, miradors, grilles en acier et maintes autres contraintes. Le tout pour faire taire toute velléité, assortie de commandos de surveillants casqués, armés et cagoulés, à l'impunité et aux dérives vainement dénoncées ça et là dans l'indifférence générale. N'en croyez rien, il y a ici une place pour vous et pour vos fils. C'est encore plus vrai que jamais, à l'heure où l'on préfère supprimer à tour de bras dans les écoles du pays bien des postes d'instituteurs et d'éducateurs pour en lieu et place miser sur l'embauche de toujours plus de nouveaux policiers et surveillants de prison et en érigeant de nouvelles prisons et autant de quartiers hauts de sécurité. Aussi, parce qu'une société dite démocratique ne devrait pas se permettre de jouer ainsi avec la politique pénale visant à l'allongement indéfini des peines. À choisir à notre mort lente programmée, nous demandons à l'État français, chantre des droits de l'homme et des libertés, de rétablir instamment pour nous tous la peine de mort effective. Clairvaux, le 16 janvier 2006.
Sous-signé les susnommés ci-après du mouroir de Clairvaux. Abdelhamid Dakar, André Généra, Bernard Lasselin, Patrick Perrochon, Milivoj Milos Slavevitch, Daniel Aertz, Farid Tahir, Christian Rivière, Jean-Marie Dubois, Tadeusz Tutkaj.
Voilà, donc c'était l'appel des 10 de Clairvaux. Et il faut savoir que, en guise de réponse, le ministre de la Justice a disqualifié cette parole collective en déclarant « Je pense à une manipulation d'un détenu qui leur a fait dire ça ». Voilà, donc voilà nos comments. Et juste pour finir sur ce sujet-là, je voulais... faire encore une citation d'un prisonnier donc de 2021 c'est un prisonnier de Valence qui dit « Ça va faire 40 ans le 9 octobre 2021 que la peine de mort a été soi-disant abolie. Quelle blague amère. En toute honnêteté, elle n'a jamais été abolie. Elle a juste pris d'autres formes, d'autres noms. On meurt, nous détenus, isolés, de mort lente et parfois même brutale. Sachez-le, s'il vous plaît, insurgez-vous-en, levez-vous, point tendu pour dire stop. » je ne veux pas faire dans la pleurnicherie ni dans le mélo, mais sachez que tout ce que j'ai écrit ici, je l'ai subi de plein fouet. Personnellement, c'est une réalité. Voilà, c'était la parole directe d'un prisonnier et voilà, ça a été relayé par le journal L'Envolée, qui est à la fois un journal papier et une émission de radio qui existe depuis 2001 et vous pouvez évidemment vous le procurer en leur écrivant. Vous tapez l'envolée sur internet, l'envolée prison, et vous aurez tous les renseignements pour pouvoir faire un abonnement. Il faut savoir que l'abonnement est gratuit pour les prisonniers et les prisonnières sur simple demande, et à l'extérieur c'est juste 15 euros, hein, donc du coup c'est vraiment pas cher. Voilà. Voilà, c'était pour terminer sur cette histoire-là de cette lutte anticarcérale. Et on avait quand même envie aussi de passer un montage qui s'appelle Dedans Dehors, qui a été réalisé par une prisonnière et la personne qui la soutenait, qui lui rendait visite régulièrement, et qui raconte comment la solidarité Dedans Dehors peut se faire.
Résister des dents, ce n'est pas regarder l'hématome pour ne voir que l'uniforme et pas la personne.
Résister dehors, c'est favoriser les parloirs sauvages, à la radio et dans la rue.
Résister des dents, c'est refuser les fouilles, nombreuses et inutiles.
Résister dehors, c'est refuser le parloir s'il y a une fouille.
Résister des dents, c'est refuser les médicaments.
Résister dehors, ça arrive au parloir le plus chargé possible.
Résister des dents, c'est manger, boire et baiser au parloir.
Résister dehors, c'est manger, boire et baiser au parloir.
Résister des dents, c'est prendre soin de soi. Ne leur laisser ni le corps ni la tête.
Résister dehors, c'est organiser les déplacements pour les parloirs.
Résister des dents, c'est refuser la télé.
Résister dehors, c'est fournir intellectuellement les prisonniers.
Résister des dents, c'est lutter pour avoir un lieu collectif.
Résister dehors, c'est organiser des caisses de solidarité.
Résister des dents, c'est s'autoriser à s'amuser.
Résister dehors, c'est faire péter des feux d'artifice pour éclairer leur nom.
Résister des dents, c'est rester humain, toucher et être touché.
Résister dehors, c'est prendre le temps de toucher l'autre en dehors des relations sexuelles.
Résister des dents, c'est développer la solidarité et la gestion collective.
Résister dehors, c'est trouver une voie pour faire sortir les infos en continu et les faire circuler.
Résister des dents, c'est ne rien lâcher, même les tout petits.
Résister dehors, c'est faire des parloirs avec les inconnus, surtout les femmes qui n'en ont pas.
Résister des dents, c'est augmenter la charge de travail des matons le plus possible.
Ouvre, je fume, ferme. Allez, ouvre, je pisse, ferme. Ouvre, je fume. Allez, referme maintenant.
Résister dehors, c'est harceler l'administration pénitentiaire.
Résister des dents, c'est faire le plus de parloirs possible et savoir en jouir.
Résister dehors, c'est faire le plus de parloirs possible et savoir en jouir.
Résister des dents, c'est ne pas avoir peur d'aller dedans.
Résister dehors, c'est de ne pas avoir peur d'aller dedans.
Résister des dents, c'est refuser tous les interdits.
Résister dehors, c'est être visible dans nos luttes anticarcérales afin que cesse l'impunité qui règne en cage. Résister dehors, c'est être visible dans nos luttes anticarcérales afin que cesse l'impunité qui règne en cage.
Agencies looking for jobs, shit wages, make memory alive.
à la fin de cette émission. Ça va être donc le moment d'envoyer ce petit agenda des jours à venir de ce qui va se passer à Marseille. C'est surtout ce week-end qui va se passer des choses. Donc week-end en hommage à Zineb Redouane, assassinée par la police il y a 3 ans déjà. Premier rendez-vous, ce sera jeudi demain de à 18h, rue des Feuillants, à Noailles, en bas de chez elle, là où s'est passé cet assassinat. Le vendredi 3, donc dans 2 jours, à 18h, il y aura un atelier autour de vérité et contre-enquête indépendante, et ça sera au local de Sud. À 21h, concert annoncé à la Plaine. Samedi, de 11h à 15h, repas collectif, toujours sur la Plaine, avec des discussions sur les violences policières. Et à suite de ça, aura lieu une manifestation à 16h, donc en mémoire de Zineb. Manifestation qui partira du Vieux-Port, samedi 16h. Et dimanche, comme tous les dimanches...
C'est tous les mois.
Tous les mois, la grande assemblée mensuelle révolutionnaire... à l'ADAR, ce centre social autogéré qui se trouve tout en haut de la rue d'Aubagne, et ce sera à 17h30. Voilà pour l'agenda à venir. Si vous voulez d'autres infos sur les choses qui pourraient se passer ici, plusieurs sites, comme d'habitude, hein, Marseille Info Autonome, marche très bien, c'est mis à jour. Donc voilà, on venait de réécouter, de nous entendre sur donc ce créneau de cette émission d'histoire qui ne fait pas d'histoire, le premier mercredi de chaque mois sur Radio Galère de 16h30 à 18h. On va donc vous donner rendez-vous le premier dimanche du mois de janvier.
Mercredi. Et ça risque d'être une émission musicale.
On verra.
Et juste aussi, avant de terminer sur un morceau de musique... je voulais juste souhaiter un anniversaire, un joyeux anniversaire à une morue qui aime bien ouvrir sa gueule, et elle est pas là. Mais voilà, on lui souhaite bon anniversaire, morue.